Quand on est attentif aux annonces des prémices de l'adaptation de nos villes au climat qui vient, on oscille entre les chiffres aussi importants que théoriques d'arbres à planter avant la fin du mandat ou d'ambitieuses transformations d'espaces publics emblématiques qui vont de la place de la mairie au boulevard qui change de peau pour accueillir un tramway. Tout ça est bel et bien, mais l'adaptation de nos villes passe par la transformation de tous les espaces publics, même les plus banals. C'est à ça que s'attaque le projet Rue Commune, engagé dans le développement d'un guide qui doit permettre de transformer la rue métropolitaine ordinaire. Alors pourquoi celle-là? Parce qu'elle est aujourd'hui dédiée au flux et au stationnement, alors que la proximité des transports en commun efficaces et le faible taux d'équipement des ménages en voiture permet d'envisager aujourd'hui d'autres horizons. On est en train de parler de plusieurs milliers de kilomètres dans les métropoles françaises. On va discuter de tout ça aujourd'hui avec Vincent Côté, qui est paysagiste, urbaniste et associé chez Richer Associés et qui a été impliqué dans le développement de ce projet. Bonne écoute.
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Les projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Vincent Côté, bonjour.
Oui, bonjour Sylvain.
Alors Vincent, vous êtes paysagiste urbaniste et associé donc chez Richer Associés. Et je voulais échanger avec vous autour alors, d'un projet, d'une démarche en tout cas, d'une expérimentation, vous allez nous dire, menée dans le cadre des appels à communs pour la résilience des territoires organisés par l'ADEME, dont on a déjà parlé à ce micro. Je voulais parler de la rue commune. Vous venez de publier, avec tout le groupement qui est mobilisé sur cette démarche, un guide. On va donc parler de ça. Et manifestement, cette rue commune, c'est en fait la rue métropolitaine ordinaire, je vais mettre des guillemets pour citer le rapport. Qu'est-ce que c'est une rue métropolitaine ordinaire?
Alors, la rue, c'est le dernier espace dans les villes auquel, finalement, on s'est peu intéressé ces dernières années pour répondre à la question de la résilience des territoires, à la question de la transition environnementale, sociétale. D'abord parce qu'on s'est beaucoup intéressé au plein, aux bâtiments. On les a rénovés, on leur a mis des nouvelles couvertures, on les a réemballés. Mais par contre, le vide des villes, on s'y est peu intéressé et on s'est surtout intéressé aux grands axes, pour toujours plus massifier, toujours plus organiser les déplacements de manière de plus en plus fonctionnelle. On a rénové les centres-villes, on a rénové les places, on a quand même enlevé les voitures, on les a finalement mis un peu sous terre souvent. Et en fait, la rue, c'est ce qui finalement, c'est le dernier espace de la, ou en tout cas, c'est le premier espace du voisinage. Avec la cage d'escalier, quoi. C'est l'endroit où finalement on est au cœur du quartier. C'est souvent la rue qui fait entre 10 et 15 mètres. Et quand on regarde les grandes villes, mais aussi les villes moyennes, on y reviendra, ça représente beaucoup de kilomètres. Et quand on les regarde plus précisément, voilà, il y a beaucoup de gens qui habitent dans les 20 premières métropoles. Globalement, la majorité des gens vivent dans une rue. Et ces rues, elles ont, quand vous regardez à Lille, à Marseille, à Toulouse, à Grenoble, Ben, elles se ressemblent toutes. Elles sont issues, en fait, simplement d'une appropriation complète par le bitume, par la bagnole, et le piéton, il a le droit à 10-15% d'espace pour pouvoir bouger. Il est souvent collé à la façade et il navigue entre tous les objets qu'on y a rajoutés. Donc la question qu'on s'est... Moi, je me passionne pour la transformation de l'espace public depuis une vingtaine d'années sur des grands projets de mobilité notamment et d'urbanisme. Et en fait, toujours dans des démarches dans lesquelles ça a été pensé un peu par le haut. Et en fait, ce qui, moi, m'intéresse, c'est de revenir à cette échelle-là de l'humain dans une démarche, et vous allez, on va l'exposer plutôt bottom-up, avec cette envie de se dire que finalement, si les rues, si on transformait la ville à partir de cette petite échelle qu'est la rue, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme nouvelle disposition urbaine, comme nouvelle écologie? Comment finalement l'usage de ces petits morceaux de ville pourrait se transformer soit au rythme des saisons, des semaines, du quotidien? Et puis surtout, si finalement on changeait les règles, si finalement on pouvait réapprendre à s'approprier la rue autrement, comme quand on était gamin, où finalement, moi, j'ai appris à faire du vélo au milieu de la rue, ce qui est aujourd'hui presque impossible ou peu possible. Et on pouvait imaginer de repenser finalement le partage de cet espace. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut? Pourquoi rue? Pourquoi les rues ordinaires et métropolitaines? Parce que c'est là où finalement personne s'y intéresse. Et que c'est finalement peut-être un des endroits où on peut répondre à un certain nombre d'enjeux du XXIe siècle.
Et c'est un pourcentage significatif des rues des métropoles. C'est aussi des centaines de kilomètres hein, dans des métropoles comme Lille ou Toulouse qui sont là. C'est aussi des degrés de liberté quelque part. Parce que il y a peut-être moins de contraintes de flux, il y a peut-être eu moins d'intérêts posés, et donc une capacité à agir un petit peu plus libérée. Peut-être aussi un désintérêt hein, depuis quelques dizaines d'années. Et on rentre sur le quotidien. Faut aussi marquer un effet de masse à un moment où on se pose des questions par rapport à l'adaptation plus globale hein, de nos métropoles au bouleversement climatique. Est-ce qu'on peut, on a déjà cité un certain nombre, hein, appropriation par la voiture uniquement et finalement moins par les gamins, mais est-ce qu'on peut un peu lister les enjeux les enjeux auxquels vous avez souhaité répondre dans ce travail-là?
Alors, en effet, qu'est-ce que ça serait si finalement on libérait l'espace? Parce que c'est pas simplement une question de libérer, mais c'est derrière de libérer et de transformer pour autre chose. Qu'est-ce que ça serait? D'abord, moi je suis partisan que, et c'est pour ça qu'on l'a appelé rue commune, on garde cette idée que c'est un espace qui soit partagé, qui soit commun, partagé, et qui garde son indétermination une fois qu'on aura enlevé les voitures, donc qui reste flexible, évolutif, et qui a une capacité aussi à peut-être réinstaller, ou en tout cas de, on va dire, confirmer l'idée que c'est l'espace de l'apaisement, du silence, de la vitesse du piéton, c'est-à-dire une forme d'hypomobilité qui a un peu disparu. Je travaille toujours depuis de nombreuses années sur des grandes infrastructures où finalement les grands axes des grandes métropoles, que ça soit en construisant des métros, en finalement construisant tout un dispositif technique de tramway, de bus et ainsi de suite, on a créé les conditions pour une hypermobilité connectée avec de l'intermodalité, donc la capacité de se déplacer vite dans l'espace de la ville, de manière vite, rapide évidemment, mais de manière aussi continue. Et là, finalement, quelque part, ces grands axes, ils ont drainé toutes ces rues ordinaires. Et donc, finalement, la contrepartie, c'est pas de dire que c'est... qu'on va finalement opposer, mais on va compléter ce grand dispositif dont les métropoles ont besoin pour fonctionner avec ce dispositif de rue qui vont prendre finalement peut-être un rôle secondaire de déplacement, d'une trame de déplacement à l'échelle du quartier, de l'îlot. Alors c'est souvent la trame liée aux écoles, parce que c'est ça la première échelle dans le déplacement d'un quartier. Mais c'est aussi peut-être demain, tout simplement, la mise en réseau des quartiers entre eux. Donc, pour nous, partant de cet espace commun qui peut se devenir flexible, évolutif, l'idée, c'est de le garder ouvert à tous. La voiture n'est pas du tout exclue de cet espace. On donne la priorité aux piétons. On crée les conditions d'un espace qui va accueillir aussi répondre à des questions de climatique urbaine, de bioclimatique, on va y revenir, pour rafraîchir notamment avec les arbres ou tout simplement, peut-être demain dans certaines villes avec des grandes toiles, comme on voit en Afrique, dans certaines villes, qui pour se protéger du soleil, à un moment donné, réorganisent aussi l'espace, le vide de la rue. Et puis aussi, c'est de recréer une relation au sol, notamment... en valorisant différemment, en pensant différemment le parcours de l'eau. Ça, c'est un peu les objectifs de cette transformation qu'on peut imaginer.
Alors, des objectifs donc, qui sont extrêmement variés. Hein. On parle de cette mobilité, cette haute mobilité. On a parlé de climat, on a parlé de rapport au sol, etc. etc. Pour rentrer dans le concret, ça veut dire quoi ça peut prendre quelle forme?
Alors... là aussi, de manière concrète, une fois qu'on a défini ces objectifs, d'abord, l'objectif premier, c'est de retirer le stationnement de la voiture. C'est-à-dire que l'occupation de la voiture représente beaucoup de place pour finalement des véhicules, des machines qui servent peu, quand on regarde la rotation, et qui, en plus de quoi, dans le tissu des rues communes qu'on imagine, peut en fait tout simplement se retrouver dans l'espace construit, dans l'espace privé. Quand on regarde à peu près les chiffres, on est l'occupation par la voiture dans les rues communes représente 5%, le stationnement représente 5% du besoin total de stationnement. Entre 5 et 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les voitures qui sont là, finalement, si elles étaient pas là, mais elles étaient ailleurs, eh ben, on n'aurait pas de voitures dans les rues. Ça veut dire que la rue, en la libérant de ce stationnement de voitures, la première règle qui va s'y poser, c'est que l'arrêt de la voiture, évidemment, est possible, de la voiture, de la camionnette, du camion de pompier et tout ça, mais il va être conditionné. Il va être conditionné avec, derrière, l'idée sa place ne va pas être centrale, mais elle va être secondaire dans l'espace, dans le vide urbain. Ça va permettre quoi? Ça va permettre le fait que la variable d'ajustement, devenant la variable d'ajustement, c'est que c'est l'usage qui va devenir l'invariant. L'usage est notamment le dispositif de végétation qui peut rentrer, qui peut devenir structurant avec une ombre selon l'aérologie, et créer les conditions aussi d'une fraîcheur continue dans la rue commune. Pensant ça, ça signifie que derrière, on va retrouver des espaces qui vont devenir plus ou moins flexibles selon les situations, dans des situations résidentielles, des situations, j'ai parlé des écoles tout à l'heure, mais aussi des situations où il y a des entreprises, où il y a derrière des dilatations et on va adapter, la rue commune va s'adapter, et ben finalement, à non plus le ruban fonctionnel de la voiture, mais à tout le dispositif, finalement, de l'îlotage des accès et à la manière dont elle, à la morphologie tout simplement, de son espace vécu et construit.
Alors, vous postulez la suppression finalement du stationnement, parce que voilà. pas si important que ça, mais hyper visible et qui occupe un domaine absolument stratégique qui peut être utilisé par d'autres. Alors, ce n'est pas ici qu'on va aller contre. Hein. Mais aussi un nivellement continu.
Hein, c'est-à-dire ça. Que c'est un sol continu.
Voilà, ce qui est aussi.
Plus de borduration. Hein, c'est-à-dire que l'idée même, c'est que le sol, de façade à façade, l'espace construit dialogue par un seul sol, sans séparation et sans discontinuité. Donc, avec l'idée que le parcours de l'eau peut être pensé de manière symétrique ou asymétrique, avec cette idée que par contre, n'ayant plus de dénivelé, le piéton peut fonctionner et se déplacer de façon aléatoire.
Alors, avec un parti pris, puisque en laissant quand même des voitures dans le système,
c'est ça.
Et on connaît leur capacité à divaguer. Hein,
c'est ça.
Comment est-ce qu'on évite aussi d'avoir... Ça me rappelle des travaux qu'avait fait la filiale de Google, Alphabet, Sidewalk Labs, sur leur expérimentation de Toronto. Et c'est assez intéressant parce qu'ils imaginaient arriver à faire ça sans avoir des forêts de potelés, uniquement le jour où on n'aurait pas, non pas la voiture autonome, mais une forme de voiture moins bête, c'est-à-dire une voiture qui nous empêche de nous garer n'importe comment, hein, qui simplement refuse de se garer sur un bout de trottoir ou sur des espaces où c'est pas autorisé. Ça veut dire aussi qu'il y a des modes de régulation qui sont associés à cette forme de l'espace public de façon à rendre ça possible.
Il y a plein de... Alors déjà, même si je suis plutôt un garçon low-tech, je prétends que l'idée n'est pas d'installer des caméras partout et de finalement être dans un contrôle qui est déjà omniprésent dans les villes. En revanche, vous posez la question claire, hein, Sylvain, c'est comment derrière, finalement, en changeant la règle du jeu, puisqu'aujourd'hui, on a un espace très fonctionnel, mais qui finalement pose peu de perturbations, puisque les objets sont rangés et tout est finalement traité à finalement ne pas laisser d'espace indéterminé, se pose de suite la question de finalement les travers que ça peut prendre. Donc il y a deux régulations possibles. La première, c'est que un peu comme les Italiens l'ont fait, les expériences sur les zones à trafic limité, les ZTL, ont montré qu'en fait, à partir du moment où on a ce risque, finalement, où quand on rentre dans une zone et que finalement on a un contrôle via la plaque, via le véhicule, et que on rentre finalement dans un espace dans lesquels les règles changent, ça c'est déjà en tout cas un premier biais possible. Et puis après, il y a le deuxième biais qui est qu'aujourd'hui, le stationnement dans toutes ces rues, il est contrôlé. En fait, il y a un contrôle parce que il est monétisé ce stationnement. Faut pas se voiler la face. Les villes gagnent beaucoup d'argent avec ce stationnement, très souvent. Et donc, moi, ce que je prône, c'est que l'idée que on peut prélever un impôt sur d'autres manières, on pourra y revenir, mais qu'en tout cas, ce contrôle sur le stationnement qui était là, eh ben, il puisse reporter aussi sur le contrôle de l'espace nouveau qui est créé.
Et à ce titre-là. L'accès des dérives.
D'accès des dérives. Et donc, à ce titre-là, ben, vous voyez, la ville de Paris a un système qu'ils ont automatisé. Vous avez des voitures qui passent dans la ville de manière aléatoire, avec une petite caméra, et qui observe tout simplement les voitures en stationnement. Ça peut être ça, ça peut être aussi tout simplement quelques contrôles aléatoires, mais qui sont des puissants répulsifs, quoi.
Alors ce qui est intéressant, c'est que là, en rentrant dans du concret, à chaque fois qu'on parle de rue, on parle de parking. Hein,
exactement.
Je vais me sortir.
Puisque la rue est un parking.
Exactement. Et puis, en tout cas, tout peut servir de parking, et c'est sans doute l'usage le plus légitime, en tout cas actuellement. Et donc, il faut bien aller contre. Ça montre aussi combien les préconisations dans ce guide ne sont pas des recettes, en fait. Et c'est intéressant, et peut-être que c'est l'occasion de reboucler avec ce que vous amorciez au tout début, c'est-à-dire le bottom-up. En quoi est-ce que le travail que vous avez fait, je pense que c'est important de l'insister, hein, c'est à la fois votre équipe sur la partie conception, mais il y a tout un... tout un groupement extrêmement complet et diversifié pour traiter les divers sujets. En quoi ce n'est pas une recette, mais c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler une méthode?
Oui, c'est une méthode. Alors, en fait, l'ADEME pose la question en disant « faites un commun ». Et dans cet appel à commun, la démarche, elle s'organise dans d'abord l'idée de partager des idées et surtout de confronter pour voir ce qui est plébiscité, ce qui est controversé.
On renverra les auditeurs au podcast avec Gabriel Plassat qui nous expliquait ça il y a quelques mois avant le lancement des appels à commun. Je vous laisse continuer.
Alors, de toute façon, je vous invite à regarder sur avec le podcast, il y aura toutes les indications. Mais pour commencer, on a construit une communauté. C'est-à-dire que les membres de notre groupement, on a commencé déjà à aller organiser toutes les personnes qui pouvaient avoir une idée de près ou de loin sur la question. On a fait des ateliers. Et là encore, la logique n'a pas été de s'ouvrir sur des thèmes de façon spécialisée, mais plutôt de rester sur une démarche qui soit ouverte pour essayer d'aller chercher les logiques qui allaient interférer et se structurer entre elles et comment les unes pouvaient aider les autres. Moi, j'ai une certitude. Depuis le début, j'avais une intuition. C'était qu'en fait, pour considérer qu'un citoyen puisse enlever la voiture de sa rue de manière naturelle, il fallait couper, un, le lien social, le lien charnel qu'il a avec sa voiture, pour certains, puisqu'elle est en bas de chez lui, elle est là, il la voit, il l'observe. Finalement, il y a quelque chose une extension de lui-même dans la rue. Il fallait créer dans la discussion, dans cette communauté, comment toutes les réflexions des citoyens pouvait se structurer, se coordonner et qu'on pouvait mettre en récit en fait des réponses qui soient très diverses mais qui ne soient pas tout de suite en opposition entre mobilité et usage ou mobilité et écologie et qu'on n'en finisse pas à se dire la rue commune, il faut choisir entre les arbres et la voiture. Et donc, dans cette communauté qu'on a créée, on a eu le souhait très vite d'abord, évidemment, de poser tous les enjeux du changement climatique, de changer la pratique de qu'est-ce que ça veut dire habiter en ville et de se dire la ville, c'est pas simplement de l'écologie, de la fonctionnalité, mais c'est aussi de la beauté, c'est de l'amour d'habiter une ville, c'est de se dire comment on a envie de s'approprier sa ville différemment. Et puis, à partir de là, de se dire la façon dont on veut transformer la ville, elle va être forcément diversifiée, elle va être diverse, il va y avoir plein de choses. Donc, il faut s'autoriser une méthode qui puisse permettre à la fois de la progressivité, de la transformation progressive, j'aime à dire, et surtout la capacité de pouvoir donner la possibilité de déterminer les choses de façon beaucoup plus différenciée selon les situations et la sociologie qu'on pourrait avoir. Partant de là, on a construit lentement cette idée que la méthodologie que nous proposait d'inventer l'ADEME, elle était d'abord fondée sur une participation du citoyen. C'est-à-dire qu'on attaquait par déjà une relation sensible à sa rue, à sa capacité à apporter autre chose que j'ai pas dans mon quartier, j'ai pas dans ma ville, où j'ai pas tout simplement dans mon îlot là où j'habite. Et donc démarche donc participative et ouverte avec de poser dans la méthode l'idée que les réponses elles seraient à la rencontre entre les questions de mobilité, d'écologie et d'usage. Mobilité, place de la voiture, le mix mobilité et d'ouverture vers aussi pas simplement le vélo, la marche à pied, mais c'est aussi tout simplement peut-être de se déplacer autrement. Voilà, c'est d'autres pratiques de mobilité. C'est derrière l'écologie de se poser la question sur la question du confort bioclimatique, de ce confort aussi d'énergie tout simplement, de consommation, de ressources. de pouvoir évaluer et de mettre entre les mains des citoyens qui participent dans la méthode les outils de compréhension de ce que ça veut dire, et que les deux en rencontrant, eh ben on revient à l'usage, c'est-à-dire que la rue, c'est aussi du bien-être, de l'accessibilité, c'est aussi un lieu de rencontre, de culture, et ça, les trois ensemble permettaient immédiatement d'imaginer que les citoyens allaient s'approprier la méthodologie et de se la fabriquer un peu sur mesure. Donc, en arrivant là, pour nous, l'objectif, c'est de se dire la participation citoyenne, c'est déjà le point de départ de la discussion, de se dire c'est à la fois sensible, à la fois technique. Les citoyens participent à ce diagnostic et priorisent les objectifs de la façon dont la transformation peut se faire, avec des scénarisations possibles, tout en respectant les objectifs de départ. Ils évaluent, ou en tout cas, ils proposent derrière des usages, des manières de réfléchir ça. Et donc là, l'idée, c'est que la puissance publique, elle propose une stratégie avec des solutions techniques qui répondent à ces objectifs, un montage, un planning, et qu'à partir de là, on teste. Notre objectif, c'est pas de dire « je vais faire 2000 km de rue », c'est de dire « je vais faire 300 mètres de rue ». Et là, je vais me permettre, moi, la métaphore, mais le but, c'est de l'incuber. C'est-à-dire, c'est de contaminer pour que ça incube. C'est un peu comme l'a fait Barcelone, mais dans une culture de la participation citoyenne qui est beaucoup plus évoluée que nous. Mais l'idée, c'est de proposer, finalement, dans la ville, des situations de projets qui vont derrière, par des projets pilotes, se tester et peut-être fonctionner à l'échelle d'une rue, puis se déployer à l'échelle de deux rues qui va faire une place, puis qu'en faisant une place, ça devient un réseau et que tout ça fabrique le réseau de rues communes. Donc, on est bien dans une démarche qui part d'une vision globale de ce que peut être le réseau de rue. Donc, il y a un réseau de rue qui peut être éligible à ça. C'est quoi l'éligibilité? C'est la présence de transports en commun massifiés et multidirectionnels dans le périmètre, 300, 400, 500 mètres, voilà, le truc un peu classique. C'est derrière la possibilité de sortir les véhicules et de les exporter dans l'espace privé ou dans des espaces publics ou parapublics. Et qu'à partir de là, eh ben, on ait la possibilité de tester, d'expérimenter avec la possibilité de mettre en réseau. Donc, les démarches, cette démarche, elle se fait par étapes. Donc, dans le guide, on retrouve l'ensemble des étapes avec une pédagogie, avec les différents temps. L'objectif pour nous, c'est que cette démarche, elle est indéterminée hein, dans son résultat. Moi, je souhaitais vraiment que le résultat ne puisse pas imposer finalement des figures complètes. Le but, c'est que les citoyens inventent leur propre figure. Quand je dis invente, c'est que à la fin, on aura sûrement des rues qui seront très paysages. Il y aura des rues qui seront peut-être plus ludiques. Il y aura des rues qui seront peut-être aussi finalement beaucoup plus en lien avec la jeunesse, avec la possibilité aux jeunes de s'approprier. Il y en a qui sont plus événementiels. Voilà, tous les scénarios sont plus ou moins possibles. C'est qu'une question de gradient. Et l'objectif, c'est que partant de là, et c'est ça, moi, l'objectif du groupement, c'était de se dire qu'on va renouveler la participation citoyenne, parce que le fait principal, c'est de repenser la participation citoyenne dans les quartiers, en réajustant finalement la place de la voiture et en créant les conditions d'une démotorisation, et qui est maintenant fortement nécessaire, pour finalement aménager des nouveaux lieux qui vont être ouverts à la vie riveraine, avec une mobilité, une hypomobilité retrouvée, et évidemment une figure qui va être rafraîchissante avec une écologie, mais c'est surtout une nouvelle esthétique. Il y a une nouvelle esthétique derrière peut apparaître, qui peut être extrêmement ponctuelle, c'est-à-dire que vous avez fait, Sylvain, vous avez fait un article sur justement le sous-sol et sur les réseaux, puisque ces rues, finalement, on y a exporté depuis maintenant des décennies tous les réseaux pour pouvoir alimenter nos villes. Donc, en effet, peut-être qu'on plantera peu, Mais le fait, finalement, d'avoir la capacité de planter un peu où on veut, bah, on plantera entre les réseaux. Voilà, ce qui peut donner des figures très intéressantes. Où on plantera très amplement, ça dépendra des climats, des contextes et puis des envies, quoi, tout simplement.
Une méthode, un commun, hein, qui est invariable, voilà. qui est aujourd'hui un guide et finalement des résultats qui vont être extrêmement diversifiés. Alors, parce que tout simplement adaptés, issus du dialogue.
Voilà.
C'est simple, c'est plus simple à dire qu'à faire, et puis tester aussi et confronter au réel. C'est quoi les prochaines étapes sur la démarche? Parce que oui, là, il y a un livrable qui est quand même sans doute une forme d'aboutissement d'un gros travail, mais en même temps, c'est que le début. Qu'est-ce qui se passe après? Vous en êtes où? On va où?
Alors, on va où? Alors, c'est la fin d'un premier chapitre et c'est le début d'une grande aventure. En fait, on va où? On va que ce guide, l'idée, c'est que deux grands acteurs doivent s'en saisir. Le premier, c'est le politique, qui puisse, à partir de ce guide, prendre conscience, s'il l'a pas, mais pour beaucoup, il l'a déjà, que c'est un super outil pour renouveler sa participation citoyenne, pour repenser finalement la transformation de la ville, des quartiers avec ses citoyens, donc de proposer en fait la démarche sans obligation de résultat, parce qu'elle est indéterminée dans le résultat, mais par contre elle est processée. Et le deuxième acteur, c'est le citoyen. Et l'idée, c'est que le citoyen, il se saisisse du guide et qui, avec son voisin, sa voisine, ben, ça soit lui qui soit l'initiateur aussi. Ils se disent, moi, monsieur le maire, ben voilà, on pense que là, nous, on est éligible à la rue commune et il y a quelque chose qu'on peut faire, on peut initier. Et pour moi, c'est la rencontre des deux. Le guide, aujourd'hui, on a voulu quelque chose de… Voilà, il fait 400 pages parce qu'il y a trois approches. Il y a une approche très pédagogique pour justement le citoyen, qui puisse voir les grandes étapes, donc un peu scientifique. Il y a une approche aussi politique, pour qu'il puisse se placer dans le temps aussi, dans le temps politique. Et puis aussi, pour les techniciens, qui eux pensent la ville peut-être de manière un peu trop séparée, et moi je leur en veux pas, parce que c'est toute une histoire en fait de la formalisation des villes modernistes, dans lequel ils doivent aussi réinventer leur manière de faire la ville, de la gérer, de la penser. Donc ce guide, il est à destination à la fois des techniciens. Alors, je reprends. Le guide, il est à destination à la fois des politiques pour qu'ils puissent renouveler leur participation avec Non, mais je reboucle.
Non, juste les techniciens. Moi, je vais ouais. Manipuler. Il faut qu'on atterrisse là, parce qu'on a, on
d'accord.
A passé le.
Ok. Donc ce guide, c'est aussi pour les techniciens la capacité de pouvoir repenser leur manière de faire, de réfléchir à une autre maintenance, une autre approche, notamment en hybridant les sujets. J'ai parlé de l'eau tout à l'heure. Du sol, des espaces verts, ben, tout ça c'est un peu lié en fait dans la rue commune, et donc ça nécessite peut-être aussi de mutualiser, de repenser leurs services et leur manière de faire.
Donc beaucoup de choses à voir hein, dans ce guide, à la fois dans le détail et puis aussi dans l'approche générale. Je pense qu'il y aura d'autres occasions hein, aussi d'en parler, de découvrir tout ça. On va mettre tous les liens dans les commentaires. Vincent, est-ce que vous avez aussi un conseil de lecture pour les auditeurs, peut-être pour s'ouvrir sur ce sujet-là ou sur d'autres, en tout cas pour aller plus loin?
Alors, j'ai un conseil de lecture, mais j'ai aussi une précaution de lecture. C'est qu'une fois que vous aurez lu notre guide, vous ne verrez plus votre rue de la même façon. Et je pense que ce guide, il ouvre en fait, il faut le prendre de manière, il n'y a pas de sens, on peut l'attaquer par la fin comme on peut l'attaquer par le début. Ce qui est sûr, c'est qu'il permet en fait quels que soient les chapitres, d'aborder la rue par un angle différent de celle qu'on connaît. Et naturellement, c'est un peu comme une Bible, c'est la Bible de la rue, c'est que on a tenté d'avoir une approche la plus pédagogique possible dans tous les thèmes. Donc moi, j'invite tous les lecteurs, avec vos voisins, vos voisines, à l'attaquer par le bout qu'il veut, mais par contre, à bien avoir en tête que vous allez avoir envie de transformer votre rue après ça.
C'est une belle précaution. Et un conseil ?
Allez-y vite. Allez-y vite le saisir. Il est disponible sur Internet, puisque ce commun, on l'a, c'est de l'open data. C'est complètement libre d'accès. On l'a voulu comme c'était demandé par l'ADEME, mais on l'a voulu comme demain évolutif, puisque on va au fil de l'eau maintenant et dans les années qui viennent, avec la communauté, avec tous les membres de la communauté, continuer à l'enrichir des expériences, et on attend en fait beaucoup que on ait des retours sur le site internet qu'on a créé, qui s'appelle rucommune.com de mémoire. Vous trouverez ça très facilement pour le faire évoluer.
Merci beaucoup, Vincent Côté. On ne manquera pas de suivre la suite de tout ça. C'est plutôt le début que la fin. Hein.
Voilà,
on a bien compris que c'était aussi la volonté d'expérimenter, de tester et donc de faire évoluer les choses. Merci pour ce travail et puis merci pour l'échange et à bientôt.
À bientôt. Merci à vous.